Well, I won't try to say anything in French anymore.
J'essaierai pas de parler français ce coup-ci.
Let's turn to Matthew's Gospel.
Tournons dans l'Évangile de Matthieu. Au chapitre premier.
Can you up here hear me okay?
Est-ce que vous m'entendez là?
Wait a minute, I didn't put my little thing on, did I?
Oh. Sam can't. Pas mis mon micro, Sam m'entend, mais pas vous autres.
Am I supposed to wear this, Sam?
Pas pour moi, non. Not for me. I heard you fine.
Okay, all right. For maybe it's for the video, I don't know. Last night, we began talking about...
Nous avons commencé à parler.
Well, I tried to give you what I would call...
J'ai essayé de vous donner une idée de ce que j'appellerais un différent point de vue de la prophétie.
If we said we were going to have a conference about prophecy...
Si nous disons que nous allons avoir une conférence sur la prophétie, vous penseriez qu'on va parler de la deuxième venue, l'Antéchrist, l'Armageddon et tout ça. Avez-vous de la difficulté, là, maintenant? Il y a de la place en avant, mais... Bon. Nous avons essayé de faire voir hier soir que la plupart de la majeure partie de la prophétie a déjà été accomplie. Encore le déménagement, bon. Ça va faire un petit groupe de frères étroits. Les frères serrés, comme on dit en anglais. Bon, ça a plus de sens comme ça. Il y a deux indépendants là-bas qui sont tout seuls dans leur coin. Nous essayons de vous donner une perspective un petit peu différente de la prophétie. Nous avons dit que dans la Bible, à peu près 30% c'est de la prophétie, c'est le cœur même de la Bible. La majeure partie de la prophétie s'est déjà accomplie. Et pourtant, c'est la grande preuve que Dieu existe et que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus-Christ est le sauveur des pécheurs. Et nous avons vu qu'il y a deux sujets principaux dans la prophétie. Israël, nous avons parlé d'Israël un peu hier soir, et le Messie qui doit venir d'abord à Israël et au travers d'Israël au monde entier. Vous avez l'air de pas bien m'entendre en avant, mais... Et pour récapituler un peu, nous avons dit hier soir que la parole de Dieu dit que nous devons toujours être prêts à rendre compte à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Nous devons pouvoir donner des raisons, pas seulement parler de notre expérience, mais donner des raisons. Et nous avons vu que après que Pierre mentionne une expérience fantastique du monde de la transfiguration, il dit « Mais nous avons une parole plus sûre, la prophétie. » C'est la prophétie qui est la parole certaine. Nous sommes ensuite allés dans Ésaïe 46 et nous avons vu que Dieu dit « Je suis le Dieu de la prophétie. Je vous prouverai que j'existe en vous disant ce qui va arriver avant que cela se produise. » Et au verset 43, il dit à Israël, vous êtes mes témoins envers vous-même et envers le monde que je suis Dieu. Ils sont ces témoins, pas parce qu'ils vont dans le monde entier à dire que Dieu existe, parce que la plupart des Juifs ne sont même pas intéressés à cela. 30% des Israéliens prétendent être athées, mais ils sont la preuve parce que ce qu'il a dit qui allait leur arriver s'est produit. Et nous avons vu des choses spécifiques. Il leur a promis un pays, il les a amenés dans le pays. Lorsqu'il les a amenés dans le pays, il les a prévenus que s'ils lui désobéissaient, il les jetterait hors du pays. Pas simplement dans le pays d'à côté, mais qu'il les éparpillerait sur la surface de la terre. Et il l'a fait. Et il les a avertis qu'ils seraient persécutés, qu'ils seraient haïs. L'antisémitisme, qui est tout à fait unique au peuple juif, qu'ils seraient persécutés, mis à mort. Et Dieu a dit, mais je ne vous laisserai pas être détruits. Je vous garderai comme un peuple, un groupe ethnique reconnaissable, parce que dans les derniers jours, je vais vous ramener dans votre pays. Et il l'a fait. En 48, une nouvelle nation est née. Et il a dit, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement, un fardeau pesant au cou des nations du monde. C'est une prophétie incroyable, et nous en avons parlé un peu plus en détail hier soir. Cette petite ville de rien du tout, qui n'a aucune valeur stratégique, il n'y a aucune raison, si on essayait de trouver une raison en termes de stratégie, il n'y en a pas. Mais c'est pourtant le problème numéro un du monde aujourd'hui, et tout le monde dans le monde sait que la prochaine guerre mondiale va se déclencher à cause de Jérusalem. Ça n'a aucun sens, mais pourtant c'est ça. Et les Nations Unies doivent essayer de résoudre ce problème. Et il a dit, je ferai de Juda, des princes de Juda, un feu qui dévorera les pays d'alentour. Et nous en avons donné des illustrations. Ce petit pays d'Israël a l'armée la plus forte au monde. On dit que c'est la troisième plus grosse après la Russie et les États-Unis, mais je pense que c'est l'armée la plus efficace et la plus puissante. Et il n'y a personne qui veut se battre contre eux. Il va falloir le monde entier à Armageddon, sous la direction de l'Antéchrist. Le monde entier va essayer de détruire Israël. Parce que personne de moins que ça ne peut lui tenir tête. Et n'oubliez pas, ils ont, eux, les armes nucléaires. Et lorsqu'ils seront pris, ils utiliseront l'arme nucléaire pour leur survie. Et je pense que c'est ce qui va se produire durant l'Armageddon. Peut-être nous en parlerons plus tard, mais Christ a dit, si ces jours n'étaient raccourcis, personne ne survivrait. Nous voulons ensuite aller au deuxième sujet. Tout ce que nous avons dit est suffisant pour prouver que Dieu existe. Personne ne peut être athée. C'est impossible d'être athée. On ne peut pas nier que Dieu a accompli ce qu'il avait dit. J'ai mon diplôme dans les mathématiques à l'Université de Californie à Los Angeles. Alors, je connais les lois des probabilités et je peux vous dire que toutes ces choses ne peuvent pas s'être produites indépendamment et tout ensemble par pure chance. Cela c'est impossible. Mais lorsqu'il est que nous en arrivons au Messie, alors c'est encore plus surprenant, plus remarquable encore. Et bien sûr, les prophéties sont encore plus nombreuses. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est l'importance de la prophétie. Est-ce que j'ai dit, regardons dans Matthieu chapitre 1er? Bon, regardons certains des endroits. Au verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Okay. Chapitre 2, verset 15. « Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Verset 17. « Alors s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. » Au verset 23. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. » Au chapitre 4 et au verset 14. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. » Chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Ça continue comme ça, vous comprenez où je veux en venir. Ce qui se produit dans le Nouveau Testament est un accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé dans l'Ancien. Tournons maintenant dans Romains, chapitre 1er, nous l'avons cité hier. Romains chapitre 1er, et regardez ce que dit Paul. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ça, c'est le premier point important. Quelquefois, on parle aux gens, et moi, je rencontre bien des gens dans les avions à qui je parle, en venant d'ailleurs. Et je fais toujours confiance au Seigneur. Je dis, Seigneur, moi, je ne veux m'imposer à personne, mais toi, tu peux ouvrir les portes pour leur parler. Et quelquefois, lorsque vous commencez à présenter la vérité aux gens, ils disent, oh, vous insultez ma religion. Vous insultez mon Église. Je leur dis toujours, oh, je regrette. Si c'est ça, c'est votre religion, alors je suis désolé pour vous. Qu'est-ce que Dieu a à dire? Il est temps que vous sachiez ce que Dieu pense de tout ça. Ce n'est pas un évangile que Paul a fabriqué, c'est l'évangile de Dieu. Comment est-ce que je sais que c'est l'Évangile de Dieu? Il le dit. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alors l'Évangile que nous prêchons est l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. Si ce n'est pas l'accomplissement de ce que les prophètes ont dit, alors ce n'est pas la vérité. Et je ne suis pas intéressé à ce qui n'est pas la vérité. Je veux connaître l'autorité qui est en arrière de ce qui est dit. Alors Paul dit, voici l'Évangile de Dieu, qu'il a promis par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et de quoi est-ce que ça parle? Et qui concerne son Fils, Jésus. De 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ce livre, la Bible, c'est un livre fantastique. On ne peut pas échapper à cela. Prenons un verset. Disons Galates 4:14. Paul dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait simplement un moment précis dans lequel le Fils devait venir. Nous avons lu là qu'il était de la descendance de David. Matthieu commence avec la généalogie de Joseph, qui n'était pas son père, mais qui était le chef de famille. Dans Luc, on a la généalogie du beau-père de Joseph. Nous avons père, mais en fait, il s'agit du beau-père. C'était le père de Marie, jusqu'à David. Alors, des deux côtés, par Marie et par Joseph, il descend de David. Il fallait qu'il le soit. L'Ancien Testament l'avait promis, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'en l'an 70, lorsque les Romains ont détruit le temple et la ville de Jérusalem, ils ont détruit tous les records généalogiques, tous les dossiers généalogiques. On ne pouvait plus, après ça, prouver quoi que ce soit. Plus personne ne peut prouver qu'il descend de David. Prenez Genèse 49, verset 10. Joseph bénit ses enfants. Il arrive à Judas et il lui dit, « Le sceptre ne sortira pas de Judas. » Ni celui qui donne la loi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et qu'est-ce que c'est le Shiloh? C'est une personne, il est dit, et c'est autour de lui que se rassemblera le peuple. Shiloh, c'est le Messie qui devait venir avant que Judas perde le sceptre. Bien que les Juifs étaient sous Rome, ils avaient une certaine autonomie, surtout en ce qui concerne la pratique de leur religion. Et une chose qui était importante dans la pratique de la religion juive, c'était de pouvoir mettre à mort, parce que cela était nécessaire lorsqu'on enfreignait la loi. Et en l'an 7, après Jésus-Christ, ils ont perdu ce droit. Et c'est pourquoi quand ils ont amené Jésus à Pilate, Pilate a dit, « Ben, jugez-le selon votre loi. » Vous vous souvenez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, dans Jean 18, « On ne peut pas. » Parce que nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort, selon la loi romaine. Ils avaient perdu ce droit-là d'imposer la peine de mort. Le sceptre était parti et le Messie devait venir avant cela. Ce n'est pas que les rabbins aimaient tellement obéir à la loi romaine ou qu'ils s'y forçaient, parce qu'après tout, ils avaient déjà essayé de le lapider et ils l'auraient fait s'ils avaient pu. Ils n'ont pas réussi à le faire, mais ils ne pouvaient pas être lapidés. Il fallait qu'ils meurent crucifiés. Ces os ne devaient pas être brisés. Ils verront celui qu'ils ont percé, les mains, les pieds. Alors, il y avait un temps bien précis dans lequel le Messie devait venir. Il devait venir lorsque le temple était là. Parce que Malachie 3 dit que le Seigneur que vous cherchez viendra dans son temple. Et il vient pour purifier le temple, etc., en accomplissement des Écritures. Mais il fallait qu'il vienne avant que le temple soit détruit. Parce que Daniel 9 a dit que le Messie va venir, il sera retranché, et alors la ville et le sanctuaire seront détruits. J'aime ça dire ça à mes amis rabbins. J'aime leur dire, mes amis juifs, je regrette, mais vous attendez le Messie, c'est trop tard. C'est trop tard. Il n'a plus de registre généalogique, le temple n'est plus là, Et quand il va venir, il va être rejeté, le temple va être détruit, la ville de Jérusalem va être détruite. Est-ce que c'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez au prochain Messie que vous attendez? Alors, la parole dit, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Je le répète toujours, la Bible est un livre fantastique. Personne, ce n'est pas un homme qui a écrit cela. Paul a utilisé ça, c'était sa façon d'agir. Je ne vous dis pas quelque chose que vous ne savez pas, la tournée dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, et au verset 1er, il nous est dit qu'il est allé dans la synagogue à Thessalonique. Versets 2 et 3, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Discuss en anglais. Alors Paul, selon son habitude, nous savons maintenant comment il faisait. C'est comme ça que Paul fonctionnait, c'est comme ça qu'il agissait. Si on suit Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Partout où il va, il ouvre les Écritures. Ce n'était pas la King James, le Nouveau Testament, c'était l'Ancien Testament qu'ils avaient de ce temps-là. Et Paul dit, regardez, que disent les prophètes? Voilà les prophéties messianiques. Voilà ce qui a été promis concernant le Messie. Et vous ne pouvez pas le nier. Tout cela s'est accompli dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Alors, il est le Messie. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais nous avons oublié de présenter l'Évangile de cette façon. Aujourd'hui, on veut donner un témoignage et parler de comment Christ a changé nos vies. Bon, c'est merveilleux, mais ça, ce n'est pas la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est voici l'Évangile de Dieu qu'il a promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et nous devons nous référer à cela. Écrivez Isaïe 53 sur une feuille de papier, par exemple, pour que les gens ne savent pas d'où ça vient. Et montrez-le à un juif et demandez-lui d'où ça vient. Et demandez-lui de qui il est question. Il va vous dire, mais ça c'est Jésus, bien sûr, et c'est un chrétien qui a écrit ça. Et vous leur dites, non, ça vient de votre prophète Isaïe, c'est ça que lui a dit. Vous ne pouvez pas le nier. Ça, c'est exactement la façon dont Paul présentait l'Évangile et c'est la façon dont nous devons le présenter encore aujourd'hui. Concernant l'accomplissement des Écritures, chapitre 13, au verset 27, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Voyez ce qu'il dit? Il dit la même chose que Jésus a dit. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont crucifié? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté? Parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Malgré qu'ils lisaient les Écritures à tous les sabbats, nous ne prendrons pas le temps d'aller voir ça, mais qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, vous rappelez-vous? Les deux disciples d'Emmaüs, ils marchent, puis ils sont tout tristes. Et Jésus arrive et dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Ils disent, oh, est-ce que tu es un étranger? Tu ne sais pas ce qui s'est produit? Il y avait Jésus de Nazareth. C'était un homme qui est puissant, qui faisait des miracles. Et nous pensions qu'il était le Messie. Mais ils l'ont mis à mort. Alors, ça ne pouvait pas être le Messie. En plus de ça, ça fait 3 jours, et puis, oh, il y a bien de nos amis qui ont dit, on ne sait pas où est son corps. Il ne nous reste même pas quelque chose de lui, rien qui reste. Quelqu'un a pris le corps. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Insensé. Je ne sais pas ce que ça dit dans le français, mais insensé. Que vous êtes lent de compréhension pour comprendre tout ce que les prophètes ont dit. La même chose que Paul dit ici. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont crucifié? Parce qu'ils n'ont pas porté attention à ce que disaient les prophéties. Et Jésus leur dit, insensé, ne savez-vous pas ce qui avait été annoncé par les prophètes? Être crucifié ne prouvait pas que ce n'était pas le Messie. S'il n'avait pas été crucifié, alors ce n'était pas le Messie. Être crucifié prouvait qu'il était le Messie. Et le tombeau est vide parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alors les références nous renvoient toujours à ce qu'ont dit les prophètes. Ensuite, il est dit, en commençant avec Moïse et tous les prophètes, dans Luc 24, il leur expliqua les Écritures. Dans toutes les Écritures, les choses qui le concernaient. Cela veut dire quelque chose d'intéressant. J'ai déjà eu des débats là-dessus avec certains des apologistes catholiques. Et une des choses qu'ils disent, qu'un d'entre eux essayait de dire, c'était que l'Église catholique nous a donné la Bible. Et ce sont les conciles, etc. Ça, c'est du non-sens. C'est le concile de Carthage qui nous a donné la première décision sur les 27 livres de la Bible. Et vous voulez dire alors que personne ne pouvait utiliser la Bible avant que le concile de Carthage nous ait dit ça? Voyons, la parole de Dieu était disponible, et c'est ce dont les gens ne se rendent pas compte. Jésus n'aurait pas pu appeler ces gens-là insensés, il ne les aurait pas grondés, parce qu'ils ne connaissaient pas l'Écriture si l'Écriture n'avait pas été disponible. Tout le monde avait l'Écriture. Nous avons un ministère que nous appelons l'appel de Béret. Et nous avons pris cela dans Actes 17, 11, où il est dit que ceux de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Béret était une cité au nord de la Grèce, là. Et vous voulez dire que ces gens-là avaient l'Écriture? Oui, ils avaient l'Écriture. Ils n'avaient pas besoin d'aller chez un rabbin ou encore moins un prêtre ou un évêque ou un pape. Les gens ordinaires avaient les Écritures et ils étaient censés la connaître. Dans l'Ancien Testament, psaume 119, verset 9. Comment est-ce qu'un rabbin purifiera son cœur par la parole de Dieu? Non, c'est pas ça qui est marqué. Comment le jeune homme purifiera-t-il son cœur? En portant attention à ta parole. Alors nous savons que la parole de Dieu était disponible aux jeunes hommes et ils étaient censés la comprendre. Ils n'avaient pas besoin d'aller à un rabbin pour le consulter. Psaume 1er. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Jésus a cité cela dans la tentation, dans le désert. Il a cité Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne dites pas que ça prenait un rabbin ou un grand érudit qui avait étudié l'Écriture pendant des années, sous l'autorité, les autorités reconnues. Non, ça dit un homme. Nous sommes tous censés connaître la parole de Dieu. Et Jésus a tenu ces deux-là responsables de ce qu'ils ne savaient pas. Ils auraient dû savoir ce que les prophètes avaient dit. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les autres ont toujours fait. Ils ont toujours ramené tout à l'Écriture. Au chapitre 15 des Actes, où ils sont en train de discuter, là. Et il y a Jacques qui parle au verset 15. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes, et alors il cite les prophètes. On peut retourner au chapitre 10, lorsque Pierre est en train de prêcher à Corneille, chez Corneille plutôt. Verset 43, qu'est-ce qu'il dit? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voulez dire que l'Ancien Testament nous dit ça? Oui. Pierre nous dit, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Et ça, c'est l'Évangile que je vous prêche aujourd'hui. Alors, je veux que vous voyez combien les choses sont identiques chez Paul et chez Pierre. On peut aller aussi au chapitre 18. Et au verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs. La Bible, il y a ce même mot là, nous avons en français donné une raison. Il parle d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, venez de l'Éternel et raisonnons. La foi, ce n'est pas juste une idée où je vais croire ce que mes parents croyaient. Non, la foi, c'est quelque chose de raisonnable. Dieu nous donne des raisons pour croire ce que nous croyons. Il ne nous attend pas à ce qu'on décide simplement de croire quelque chose. Alors, il raisonne avec eux en partant des Écritures. On peut aller aussi au verset 28. Là, il est question d'Apollos. chapitre 18, verset 28, « Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Alors, comment est-ce qu'on convainc les gens que Jésus est le Christ? Oh, je leur ai donné mon merveilleux témoignage, j'étais dans la drogue, j'étais dans le sexe libre et toutes ces affaires-là, puis j'ai rencontré Jésus-Christ, puis il a changé ma vie. Bon, c'est merveilleux que ça vous soit arrivé, racontez ça, mais ce n'est pas ça qui va convaincre les gens. Je vais dans le monde entier, j'ai rencontré des hindous qui ont des témoignages fantastiques. Eux, ils vont sur des autres planètes, ils ont parlé avec les dieux. J'ai rencontré des gens partout dans le monde qui ont des témoignages fantastiques. Ils ne sont pas véridiques. Mais si votre témoignage ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est bon à rien de toute façon. Alors comment est-ce qu'Apollos les convainquait? Démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. C'est comme ça qu'il les convainquait. C'est comme ça qu'on peut les convaincre. Alors si nous voulons pouvoir répondre à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, où sont les raisons? Dans la parole de Dieu. Et je ne connais pas le grec, pour moi c'est du chinois, mais je peux vous dire que ce mot « raisonner » dans 1 Pierre 3, 15, soyez prêts à rendre compte que quelqu'un vous demande raison, c'est le mot « logos » qui est là. Ça, c'est quelque chose. Vous avez ce mot-là dans Jean 1, 1, au commencement était le « logos », la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il parle de Jésus. Nous disons souvent aux États-Unis, quand Jésus est la raison de la saison, quand on arrive à Noël. Jésus est la raison de toute chose. Retournons dans l'Ancien Testament maintenant. Allons dans Ésaïe 48. J'aime ce livre-là. C'est un livre fantastique, mais je l'ai dit trop souvent déjà. Ésaïe 48. Le verset 16. « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » C'est formidable. Quel verset. Celui qui parle, c'est Dieu. Il a toujours été là. Il a parlé dès le commencement. C'est le Logos. J'ai l'impression que c'est ce passage-là que Jean avait à l'esprit lorsqu'il a écrit Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Celui qui parle est Dieu, et qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. On a la Trinité dans l'Ancien Testament. La Trinité est à bien des endroits dans l'Ancien Testament. On n'a pas le temps de faire une étude complète, mais qu'est-ce qu'il dit là? Je n'ai pas parlé en cachette. J'ai mentionné hier, un homme vient sur terre, il va un peu partout, puis il dit, « Je suis Dieu, adorez-moi. » Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a déclaré qu'il était Dieu de la façon la plus puissante de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit lorsque Pilate lui a dit, « Parle-moi de tes disciples et du message que tu prêches. » Qu'est-ce que Jésus a dit? « Je n'ai rien dit en secret. » Je n'ai rien dit en cachette, je parle ouvertement. C'est celui-là qui parle ouvertement, il est celui-là. Et au dernier souper, dans Jean 13, lorsque Jésus dit, « L'un de vous me trahira, ils vont me mettre à mort. » Et vous rappelez ce qu'il dit ensuite? Il dit, « Je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent. » Et qu'est-ce qu'il dit? Non, on n'a pas le temps de faire tout ça, d'aller chercher. Mais pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? « Afin que vous sachiez que je suis. » Je suis, c'est le nom de Dieu. Lorsque Dieu est apparu à Moïse, au buisson ardent, il a dit, « Je suis celui qui est. » Cela vous rappelle, nous avons commencé hier, Ésaïe 46, versets 9 et 10, Dieu dit, « Je suis Dieu, et je vais vous dire ce qui va se produire avant que ça arrive pour que vous sachiez que je suis Dieu. » Et Jésus dit exactement la même chose. Il dit, « Moi, je vous dis ce qui va se produire avant que cela arrive pour que vous sachiez que je suis. » Aux États-Unis, il y a eu un livre et un film qui ont été faits il y a quelques années qui s'intitulait le complot de la Pâque. Je ne sais pas si ça a jamais été traduit en français, mais c'était le complot de la Pâque. Et la thèse du livre était que Jésus connaissait les prophéties. Oh, il faut que j'ouvre ça. Enfin, il disait qu'il faisait froid au Canada. Jésus connaissait les prophètes et lui et Judas ont conspiré pour les accomplir. Comment est-ce que Jésus savait qui allait monter la garde à la croix ce jour-là? Comme ça, il pouvait s'arranger pour qu'il le crucifie entre deux brigands et puis pour qu'il puisse être prêt à jouer tirer ses vêtements au sort après et pour qu'il lui donne du vinaigre au bon moment. Pour qu'il ait là justement un centurion qui lui perce le côté. Vous vous rendez compte, dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, vous avez deux mots pour percer. Psaume 22 dit, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ça, c'est un mot en hébreu qui signifie cette façon-là de percer. Mais dans Zacharie 12:10, « Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. » Ça, c'est un autre mot. Et cela parle de percer d'une façon mortelle, dans le côté avec une épée ou une lance. Alors, nous avons la prophétie qu'il serait crucifié. La crucifixion n'était même pas connue chez les Hébreux à ce moment-là. Il fallait un autre 700 ans avant que cela arrive. Comment est-ce que Jésus a fait pour se faire crucifier en accomplissant ça? Encore une fois, lorsque les temps ont été accomplis, il fallait qu'il vienne à un moment précis, à un moment où la crucifixion était courante. Et ils regarderont celui qu'ils ont percé. Il parle là, refaire là, au côté percé. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir toute cette foule-là, dans la foule, pour le reconnaître comme le Messie? C'était un accomplissement de la prophétie. Zacharie dit, « Réjouis-toi, fille de Sion. Voici ton roi qui vient. Il est humble. » Il est doux et humble de cœur, il apporte le salut et il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Quelle façon pour un roi d'entrer? Il aurait dû être sur un étalon blanc avec une épée à la main, mais il vient dans l'humilité et la douceur sur un ânon. Mais ils l'ont salué comme le Messie. Et vous vous rappelez ce que les rabbins ont dit dans Matthieu 16. Nous avons juste le temps de ne voir que quelques versets de prophétie, mais plus que nous en avons besoin pour prouver mathématiquement que cela ne pouvait pas se produire par accident. Dans Matthieu 16, après que Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Ne le dis à personne. Ne le dites à personne. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'il ne voulait pas être le Messie, parce que 51% des Juifs votaient pour lui. Il ne voulait pas être le Messie parce que ses disciples étaient des bons vendeurs et qu'ils avaient réussi à vendre sa personnalité. Il voulait être le Messie à cause de ce que l'Écriture disait. Et lorsqu'il est entré à Jérusalem ce jour-là et que la foule l'a acclamé comme le Messie et que les rabbins ont dit « Maître, fais les taire, c'est un blasphème, il t'appelle le Messie ». Vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Je vais le mettre en langage moderne. Écoutez, les gars, si eux le disent pas, c'est les pierres qui vont crier. Parce que aujourd'hui est le jour, quel jour? Je vous dis ce que vous savez déjà, je vous rafraîchis l'esprit. C'était l'accomplissement de ce que Zacharie avait dit. Allons dans Daniel, chapitre 8. Daniel, je n'ai pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit, qu'il soit bouddhiste, musulman ou quoi que ce soit, ou athée. Je m'inquiète pas s'il a 20 diplômes différents, il ne peut pas se disputer contre la Bible. Vous savez, le jour. Daniel, chapitre 9 et verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible veut dire? À la fin de 70 semaines, tout aura été accompli. la réconciliation pour le péché, le Saint des Saints aurait été oint. Le Messie serait sur son trône. 70 semaines en partant de quand? Et qu'est-ce que 70 semaines? En réalité, il choisit là de semaines, d'années. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Bien, retournez au début du chapitre. Le verset 2 du chapitre 9. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les rois de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. 70 ans pour l'accomplissement. Si vous prenez des notes, vous pouvez marquer dans la marge de votre Bible, comme moi j'ai dans la mienne, Exode 21, Deutéronome 15 et Lévitique 25. Et ces textes vous disent que lorsque Dieu a amené son peuple dans leur pays, il leur a dit, chaque septième jour est un sabbat. Ça, c'est une semaine. Mais il y a aussi des semaines d'années. Ce n'est pas quelque chose qu'on a juste fabriqué comme ça. Il y avait des semaines d'années que Dieu avait déterminées. Tous les septièmes ans, les septièmes années seraient une année de sabbat. Il fallait laisser la terre non cultivée, les esclaves devaient être libérés. Tout argent qu'on vous devait, il fallait que vous oubliez la dette tous les 7 ans. Et pouvez-vous croire que pendant 490 ans, ils n'ont pas obéi à cela du tout? Quand vous comprenez la rébellion du peuple juif, cela vous montre quelle est la grâce de Dieu. Ils ne lui ont pas obéi, ils étaient idolâtres. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas mis à mort? Sur tous les toits de Jérusalem, vous adorez les étoiles du ciel, vous êtes des idolâtres, vous l'avez été au travers de l'histoire. Et il dit, « Toute la journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Ils ne lui ont pas obéi du tout. Et après 490 ans, Dieu a dit, « Vous devez à ce pays 70 ans de sabbat. Je vais vous amener dans un autre pays pour que vous ne puissiez même pas labourer le pays ici. Vous ne voulez pas laisser les esclaves partir libres, mais c'est vous qui allez être les esclaves en Babylone pour 70 ans pour payer pour ce temps-là. Vous ne voulez pas oublier les dettes que vos frères hébreux avaient, bien je vais tout vous ôter, vous n'aurez rien et vous serez les esclaves dans le pays de Babylone. » Et après que Daniel a compris cela, l'ange vient à lui et lui dit, « Daniel, il y a une autre période de 490 ans, 70 semaines d'années. Et à la fin de cela, tout sera réglé. » Quand est-ce que ça commence? Verset 25. OK, 25, 26, 27. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Où commencent les semaines? Le verset 25 nous le dit. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, c'est là qu'on commence à compter 70 semaines. Et à la fin de 69 de ces semaines, le Messie va venir. Il sera retranché, etc. Qu'est-ce qui me reste encore comme temps? Quelques minutes. Oh là là! Tournez dans Néhémie. Une minute, excusez, j'essaie, ok, Néhémie, say that again, please. Dans le chapitre premier de Néhémie, certains de ses amis reviennent de Jérusalem. Et Néhémie dit, ben, comment ça va, Jérusalem? Oh, il lui dit, c'est terrible. Est-ce qu'ils ont rebâti le temple, mais c'est rien à côté de ce que c'était du temps de Salomon. Et il n'y a aucune défense. Les murs sont abattus, les portes sont brûlées. Et Néhémie pleure. Il aime sa ville. Il doit maintenant aller dans la présence du roi et on ne pouvait pas avoir l'air triste en allant devant le roi de ce temps-là. Ils étaient déjà pour l'attitude positive de ce temps-là. Alors il essaye de bien paraître, comme s'il n'avait pas pleuré, mais le roi se rend compte, il dit, « Ah, je peux dire, Néhémie, il y a quelque chose qui t'attriste profondément, qu'est-ce qui se passe, Néhémie? » Et Néhémie, il envoie vite une prière au Seigneur en vitesse, il dit, « Oh, il dit, Seigneur, fait qu'il m'accueille bien, parce que, bien, il dit, c'est à cause de ma ville. » Les murs de ma ville sont abattus, les portes sont brûlées. Et le roi dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Néhémie dit, est-ce que vous me donneriez l'autorité de retourner, de reconstruire ma ville? Le roi dit, tu l'as, mon gars. Quand est-ce que ça s'est produit? Il le dit. Première partie du verset, au mois de Kisle, la 20e année. C'est là que ça s'est produit. Il y a eu plusieurs rois qui ont porté le nom d'Artaxerxès, mais il n'y en a qu'un qui a été sur le trône 20 ans, plus de 20 ans, pardon, et celui-là a régné 40 ans, c'était Artaxerxès longuement. Alors, la 20e année de son règne, c'est en 445 avant Jésus-Christ, le mois de Nissan. S'il ne dit pas le jour du mois, c'est le premier jour du mois. Ne dites pas que la Bible ne donne pas de date, nous avons une date. Nissan, d'abord 445 avant Jésus-Christ, et comptez 69 semaines d'années, 490 ans. De cette date-là, au jour même, ça tombe au 6 avril en l'an 32, ce qu'on célèbre aujourd'hui comme le dimanche des Palmes où le Seigneur est rentré à Jérusalem. C'est pas surprenant que le Seigneur a dit « Aujourd'hui est le jour ». S'ils ne le disent pas, les pierres le crieront. Mais quel autre jour est-ce que c'était aussi? Vous qui étudiez la Bible, qui célébrez le repas du Seigneur tous les dimanches, vous devez déjà avoir entendu ça souvent. C'était le 10 de Nissan. Et qu'est-ce que le 10 de Nissan? Exode 12, c'était le jour où on prenait l'agneau hors du troupeau et on l'observait pendant 4 jours pour voir qu'il n'avait vraiment aucune tache et aucun défaut avant de l'offrir pour la Pâque. C'est le jour où Jésus est entré à Jérusalem. Il ne venait pas à Jérusalem. Vous vous rappelez, il est resté caché. Ça dit qu'il n'est pas venu en Judée parce que les Juifs voulaient le tuer. Et puis tout d'un coup, c'était le 10 de Nissan. Et qu'est-ce que le 10 de Nissan? Exode 12, c'était le jour où on prenait l'agneau hors du troupeau et on l'observait pendant 4 jours pour voir qu'il n'avait vraiment aucune tache et aucun défaut avant de l'offrir pour la Pâque. C'est le jour où Jésus est entré à Jérusalem. Il ne venait pas à Jérusalem, vous vous rappelez, il est resté caché, ça dit qu'il n'est pas venu en Judée parce que les Juifs voulaient le tuer. Et puis tout d'un coup, le 10 de Nissan, le jour où l'agneau devait être séparé du troupeau pour être examiné, il rentre dans Jérusalem. Et il reste là. Il va au jardin le soir, mais durant la journée, il est au temple, tous les jours. Et c'est cela qui a encouragé Judas à aller voir les rabbins. Et ils ont mis sa tête à prix. Si tu sais où il est, laisse-nous savoir. Fais-nous savoir. Ce livre-là est formidable, je le répète encore. Vous vous rappelez ce que les rabbins ont dit? Nous allons la voir, nous allons l'arrêter, nous allons le mettre à mort, mais pas pendant la fête, pour pas qu'il y ait une révolution. Jérusalem est remplie de pèlerins qui sont venus pour la Pâque. Attendons qu'ils sont partis avant de le mettre à mort et que tout se soit calmé. Alors, on l'aura. Mais il fallait qu'il soit crucifié le jour où l'agneau de la Pâque était immolé pour accomplir l'Écriture. Dans Exode chapitre 12, il est question d'un agneau pour cette maison-là, un agneau pour celle-là. Au verset 6, il est dit, ils le prendront. Toute l'assemblée le prendra, et ils le prendront. Et ils le tueront le soir. Ça, c'est l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Et ça, c'est celui que toute l'assemblée d'Israël va prendre et mettre à mort le soir. Il fallait qu'il soit mis à mort à ce moment-là. Alors Judas va au rabbin et il dit, hey, les gars, ça y est, je l'ai là. Je peux vous dire où il se tient le soir. Et je vous y conduirai si vous voulez. Il n'y aura pas de multitude, il va être tranquille là, juste quelques disciples, vous pouvez le prendre en secret puis vous l'avez. Ah, ils étaient contents. Je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup de barguinage, comme on dit, mais finalement, ils se sont entendus à 30 pièces d'argent. Et il est tout fier, il se frotte les mains, là, il a son argent pour prendre sa retraite, mais il a oublié quelque chose. Il a oublié Zacharie, où Dieu parle, et il dit, j'ai dit à mon peuple, si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez, quel est mon prix, pensez-vous? Et Dieu dit sarcastiquement, et ils m'ont évalué à 30 pièces d'argent. Quel prix minable auquel le peuple d'Israël m'a évalué. Encore une fois, l'accomplissement de la prophétie, bien, je pense qu'il faut arrêter là pour maintenant, mais retournez dans l'évangile de Jean, et je n'essaye pas de couper les cheveux en quatre, mais s'il vous plaît, ne respectez pas le vendredi saint. Jésus n'a jamais été crucifié le vendredi saint. Toutes les Écritures devaient être accomplies. Et qu'est-ce qu'un des textes de l'Écriture qui devait être accompli selon Jésus? Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et vous ne pouvez pas mettre 3 jours et 3 nuits d'une crucifixion du vendredi à une résurrection du dimanche matin. C'est impossible. Il a été crucifié le 14 de Nissan en l'an 32, un jeudi après-midi, et alors vous pouvez compter, cela vous donne les 3 jours et les 3 nuits. Jeudi, c'est une partie du jour, alors jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, etc. Mais vous dites-moi une minute, là. Le lendemain était un sabbat, ça ne pouvait pas être le jeudi, alors. Allez, dans Jean 19 et verset 14. C'était la préparation de la Pâque. La Pâque n'avait pas encore été mangée. Le dernier souper n'était pas le souper de la Pâque. Cela aurait tout démoli. Le dernier souper était une nouvelle Pâque. Le repas que le Seigneur a pris dans la chambre haute, ce n'était pas la Pâque, c'était Jésus qui donnait le souvenir de son corps et de son sang. Si ça avait été le repas de la Pâque, tout aurait été de travers. Retournons maintenant au verset 13 et au verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, c'est avant la Pâque, donc. Le verset 29, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Si ça avait été la Pâque, on prépare les choses dans l'après-midi, on le tue avant la célébration, on le tue juste avant le coucher du soleil, et alors il faut l'écorcher, le rôtir pour ce soir-là, et ce soir-là, vous le mangez. Et cela, c'est le premier jour de la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours. Et qu'est-ce qu'il nous a dit dans l'Ancien Testament de la fête des pains sans levain? Le premier jour est un sabbat, et le dernier est un sabbat. Et vous ne travaillerez pas le premier jour. Vous allez en Israël aujourd'hui et ils ont ce qu'on appelle un ascenseur Shabbat dans tous les hôtels. L'ascenseur du Shabbat s'arrête à tous les étages pour que vous n'ayez même pas besoin de pousser sur le bouton pour l'étage. Il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Alors si ça avait été la fête du sabbat, ils étaient déjà dans un sabbat. Le premier des 7 jours de la fête des pains sans levain. Et Jésus ne va certainement pas aller acheter quelque chose au magasin. Il n'y a pas de magasin d'ouvert. Il ne s'agit pas du jour de la Pâque, ça. Ça va être le soir suivant, lorsque Jésus sera sur la croix. Alors, retournez de nouveau au chapitre 19. Et au verset 14, c'était la préparation de la Pâque, verset 31, « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. » C'était un grand jour. Ce jour de sabbat était un grand jour. Ce n'était pas le sabbat du samedi, c'était un sabbat particulier. Alors, il est crucifié le jeudi avant le coucher du soleil, de jeudi soir à vendredi soir. Ça fait la première journée des pains sans levain, le grand sabbat. Du vendredi au samedi soir, c'est le sabbat régulier. Et alors, les femmes n'ont pas pu aller au tombeau avant dimanche matin. Je dis cela, non pas pour essayer de couper les cheveux en quatre, mais pour vous montrer que tout texte d'écriture doit s'accomplir. Alors, lorsque Jésus dit, « Si eux ne le disent pas, les pierres le crieront, parce qu'aujourd'hui est le jour. » Quel jour est-ce que c'était? C'était 69 semaines d'années depuis le commandement. Il fallait qu'il vienne à ce moment-là. Et c'était le 10 de Nissan, lorsque l'agneau est présenté et qu'il est mis en observation pour 4 jours avant d'être mis à mort. C'est un livre formidable, je le dis encore une fois. Nous avons le message de l'Évangile de Dieu qu'il a promis avant par ses prophètes dans les Écritures concernant son Fils, Jésus-Christ né de la lignée de David, etc. Si j'avais encore 2 minutes, Jésus connaissait les prophéties et lui et Judas ont conspiré pour les accomplir. Et alors, il réussit à se faire crucifier et tout le monde pense maintenant qu'il est le Messie, mais il est dans le tombeau. Hein, qu'est-ce que ça lui a donné? Il va falloir qu'il ressuscite à cette heure. Ah, ben, dès qu'il allait ressusciter. Est-ce qu'il est ressuscité d'entre les morts? On sait qu'il est ressuscité d'entre les morts. On pourrait donner tellement de preuves. Il y a plus de preuves de la résurrection de Jésus-Christ qu'il y en a pour la plupart des événements dans la vie des Césars que pourtant nous prenons comme faisant partie de l'histoire. Le tombeau était vide, il fallait qu'il soit vide. Or, vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit à ses disciples, vous savez, après qu'on aura prétendu que je suis ressuscité, là, je veux que vous alliez quelque part en Sibérie ou quelque part en Amérique du Sud là, ou en Afrique du Sud et vous leur direz que je suis ressuscité d'entre les morts. Ils ne seront pas capables de le vérifier si loin que ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Je veux que vous commenciez à Jérusalem. À Jérusalem. Et quel était le cœur du message? Il est vivant. Ça, ça détruit les rabbins, ça crée presque une émeute dans le monde non chrétien. Le gouverneur romain est tout mis à l'envers. Si Pilate avait pu trouver le corps, si les rabbins avaient pu trouver le corps et le montrer, c'est tout ce dont ils avaient besoin. Le christianisme venait d'être étouffé dans l'œuf, parce que le christianisme n'est pas comme le bouddhisme ou le confucianisme. Eux, ils ont laissé une belle philosophie, peu importe qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas, mais Jésus a dit, je reviendrai, je ressusciterai d'entre les morts, et parce que je vis, vous vivrez aussi. Et Paul a dit, si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes des menteurs, nous n'avons pas d'espérance, parce que ça, c'est le cœur du message. La résurrection, et ils l'ont prêché à Jérusalem. Vous pouvez aller à ce tombeau, vous comprenez que Jésus a brisé la loi lorsqu'il est sorti, parce qu'il y avait un sceau du gouverneur là-dessus. Pourtant, il l'a fait. Une preuve finale, on pourrait en donner beaucoup, et je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous savez tout cela. Mais il y a une preuve à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Ça, c'est un livre formidable. Paul. Souvent, on parle de Paul, le jeune rabbin qui avait tout pour vivre. Il était l'ennemi principal des chrétiens. Il les faisait jeter en prison, mettre à mort. Et tout à coup, cet homme, Saul de Tarse, devient chrétien. Et les chrétiens avaient peur de le laisser venir parmi eux. Ils se méfiaient du gars. Peut-être c'est un espion ou quoi. Vous dites, oh ben Paul, c'est qui a causé ça? Ah bien, j'étais sur la route de Damas et puis Jésus m'est apparu, j'ai rencontré Jésus. Les gens disent généralement ça lorsqu'ils utilisent Paul en prouvant la résurrection, mais ça se n'est pas assez loin. Tout ce que ça prouve, c'est que Paul était sincère. Mais peut-être qu'il a une hallucination. Peut-être qu'il avait un tel complexe de culpabilité, comme diraient les psychologues. Vous savez, ces gens-là, eux ont raison, vous avez tort. Regardez le beau sourire qu'ils ont et leur amour lorsqu'on les met en prison. Et lui, il voyait ces gens-là qui se laissaient mettre en prison et tout ça. Et puis, il a eu un complexe de culpabilité. Il a dit, Jésus vit encore. Mais comment savons-nous que Paul a vraiment rencontré Jésus? Ce matin, nous nous sommes rencontrés pour commémorer la mort de Jésus. Souvent, à ce moment-là, vous lisez 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, etc., etc. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Saint-Esprit n'a pas fait dire cela par Pierre, par Jacques ou par Jean? Ils étaient là. Paul n'y était même pas. Comment est-ce qu'il fait pour vous dire ce qui s'est passé alors qu'il n'était pas là? Oh, bien sûr, quand Paul est devenu un chrétien, il est allé à Pierre. Il a fait un pèlerinage jusqu'à Jérusalem, il s'est assis au pied de Pierre, il a dit aux gars, ben écoutez les gars, racontez-moi un peu tout ce qui s'est passé. Je suis devenu chrétien, mais je connais pas grand-chose sur le christianisme, alors dites-moi ce qu'il en est avant que je dise des bêtises dans mes discours publics, vraiment. Oh non, il dit, je ne les ai même pas consultés, je suis allé en Arabie. Et dans Galates, Paul dit, je vous assure, je vous certifie. Je sais que moi, j'ai ma certification comme comptable, je ne sais pas ce qu'on l'appelle dans d'autres pays, mais j'ai mon certificat et je sais ce que cela veut dire. Aller dans une compagnie, examiner leurs livres, voir ce qu'il y a dedans et mettre ma signature qui certifie les choses. Et c'est le langage que Paul utilise. Il dit, je vous certifie, frère, que l'évangile que je vous prêche ne vient pas des hommes. Je ne l'ai appris d'aucun homme et il ne m'a pas été enseigné, mais je l'ai reçu d'une révélation de Jésus-Christ. Voilà un homme là, qui n'a pas étudié avec Jésus en même temps que les disciples, et il est l'autorité principale pour la prédication de l'Évangile. Il reprend même Pierre, il dit « Pierre, tu es dans l'erreur ». Dans Galates 2,14, et Pierre est obligé d'admettre. Il écrit plus d'épîtres qu'aucun des autres apôtres mis ensemble. Et les apôtres qui ont étudié avec Jésus sont obligés de reconnaître que c'est lui qui est l'autorité suprême sur le christianisme. Et il n'a pas appris d'eux, il a appris de Jésus directement. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Nous avons bien des preuves de la résurrection et la grande preuve, c'est qu'il vit dans nos cœurs. Une histoire en finissant. À l'université Harvard, vous la connaissez probablement, il y a une école de loi là. Et un des fondateurs de cette école était un homme qui s'appelait Simon Greenleaf. Et de son temps, il était l'autorité suprême en ce qui concerne les preuves judiciaires. Même la Cour suprême le cite. Quelle preuve pouvez-vous amener en cour? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à une bonne conclusion? Et cet homme était un agnostique. Et un jour, certains des élèves de sa classe, ils l'ont mis au défi. Ils ont dit, « Dr. Greenleaf, vous êtes la plus grande autorité sur la façon d'apporter des preuves. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas votre expertise et appliquez-le aux prétentions de Jésus? Il s'est promené sur la terre, il a prétendu toutes sortes de choses. Vérifiez donc tout ce qu'il a dit selon les règles juridiques que vous utilisez. » Greenleaf a dit, « Tiens, j'ai jamais pensé à faire ça, c'est une bonne idée. » Alors, il s'est mis, il a fait une enquête. Quelques mois après, il a dit à ses élèves quelque chose comme ceci. « Vous savez, j'ai tout examiné, toutes les prétentions de Jésus de Nazareth, comme je ferais dans n'importe quel procès. » Et je peux vous dire que selon les preuves, il n'y a aucun doute. Jésus est qui il a prétendu être. Il était Dieu qui est devenu un homme, qui est mort pour nos péchés à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. On ne pourrait pas avoir plus de preuves. Qu'on en a, on en a assez pour prouver tout cela dans n'importe quel tribunal, dans n'importe quel pays. Mais alors Greenleaf a dit, mais il a fait une promesse. Après qu'il est ressuscité d'entre les morts, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Greenleaf a dit, moi j'ai ouvert la porte, il est rentré chez moi et il a changé ma vie. Il a fait pour moi ce que je ne pouvais pas faire moi-même. C'est l'évangile de Dieu. Pas seulement basé sur le témoignage de Greenleaf, mais basé sur ce que les prophètes avaient à dire et qui a été accompli dans Jésus de Nazareth. C'est comme ça que nous devons présenter l'évangile autour de nous. Car nous ne pourrons les convaincre qu'avec la parole de Dieu en montrant que Jésus est le Christ. Merci.